Donc, nous allons faire une petite série d'études sur les paroles de Jésus dans la chambre haute. Vous savez, ça prend une grande partie de l'évangile de Jean. Hein, donc, ça va du chapitre 13 jusqu'au chapitre 17. Et là, c'est Jésus qui parle aux disciples. À ses disciples, c'est ses dernières paroles. Et vous savez comment on donne de l'importance à la dernière parole de quelqu'un. C'était juste avant de partir. Ce sont les dernières paroles de Jésus. Donc, nous allons prendre les paroles de Jésus dans la chambre haute et nous allons étudier ça pendant certainement quelques semaines. Donc, je vous ai dit que ça commence par le chapitre 13, bien sûr. Et dans le chapitre 13, Jésus lave les pieds de ses disciples. Mais c'est au chapitre 14 qu'il commence vraiment à leur parler. Et c'est l'enseignement. Donc, dans un sens, on pourrait dire que c'est le sermon dans la chambre haute. On pourrait dire que c'est... Moi, je vais appeler ça les enseignements dans la chambre haute. Et ça commence par cette parole, vous voyez au verset 1, « Que votre cœur ne se trouble point ». En fait, tout ce qu'il va dire par la suite, c'est pour répondre à cette question-là, cette exhortation. Que votre cœur ne se trouble point. Et alors tous, c'est pour que le cœur ne se trouble point, pour que notre cœur soit rassuré, qu'il va dire tout ce qui reste, et puis il terminera par une prière devant les disciples. Il va prier à Dieu devant les disciples pour qu'ils entendent sa prière et ce qu'il demande à Dieu. Et nous savons que ce qu'il demande à Dieu, Dieu l'entend. Hein, donc ça rassure. Et donc, je vais lire les premiers versets du chapitre 14. Donc Jean chapitre 14 et je vais lire les 13 premiers versets, 14 premiers versets. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Voilà, je lis juste la première partie, mais en fait, nous n'allons même pas voir tout cela. C'est cette parole tout au début... que votre cœur ne se trouble point. C'est une première chose à remarquer. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais c'est en lisant l'évangile de Jean, c'est combien de fois, Jésus, ou l'apôtre Jean, en relatant les paroles de Jésus, parle de Dieu en tant que le Père. Et si vous comptez dans l'évangile de Jean, Dieu est appelé Père, plus de 100 fois, rien que dans l'évangile de Jean, en 21 chapitres. Et En fait, et dans la chambre haute, donc du chapitre 13 jusqu'au chapitre 17, c'est la moitié des fois. Il y a plus de 50 fois. Rien que dans ces chapitres-là, Dieu est appelé Père. Et dans le chapitre 14, il y a plus de 20 fois. Donc, quelque part, nous, en tant que disciples, eh bien, on doit comprendre que Jésus veut qu'on comprenne que Dieu, c'est notre Père. Hein? Il faut le comprendre. Vous savez, je ne sais pas si vous avez rencontré les témoins de Jéhovah, tout de suite, ils vous disent, c'est quoi le nom de Dieu? Et la réponse qu'ils veulent que vous dites, et ce n'est pas faux, c'est Jéhovah. Il faut dire ça. Après, ils sont contents. Mais Jéhovah, c'est ce qu'il est appelé dans l'Ancien Testament surtout. Et ce n'est pas faux, c'est juste. Mais lorsque vous lisez Jésus-Christ et les paroles de Jésus-Christ, eh bien, lui, il ne dit pas de dire Jéhovah, il nous dit de dire notre Père qui est aux cieux. Hein, quand il nous donne la prière modèle, il nous dit voilà comment vous allez prier, eh bien, il nous dit, vous dites, il n'a pas dit, dites Jéhovah. Et ce n'est pas faux, hein, c'est le nom de Dieu. Hein, ça veut dire, Jéhovah, c'est traduit dans notre Bible, l'éternel. Chaque fois que vous voyez dans la Bible seconde, éternel, dans le texte original, c'est Jéhovah. Hein. Et chaque fois qu'il y a Dieu, hein, D-I-E-U, eh bien, dans la Bible hébreu, c'est Elohim. Hein, ça, c'est systématiquement, ils respectent ça. Donc, ce n'est pas un problème. Mais, ce que je vois dans les évangiles, eh bien, c'est que Jésus, en fait, il nous dit, quand vous pensez à Dieu, pensez à Père. Vous vous souvenez, Jésus était ressuscité, et puis il y a Marie Madeleine ou Marie de Magdala qui se trouve près de la tombe, et elle croit que Jésus a été volé, son corps a été volé, et elle est en train de pleurer son désespoir. Vous savez, parfois on pleure pour des choses qui ne sont pas vraies. Hein. Jésus est ressuscité, mais elle pleure comme s'il était mort. Hein, des fois, mais elle est en train de pleurer, Jésus vient, et puis lui parle. Et puis, bon, tout d'un coup, elle reconnaît sa voix, elle reconnaît qui elle est, et Jésus lui dit, au chapitre 20, verset 17, hein, Jean, chapitre 20, verset 17, il lui dit, « Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Voilà, Jésus ressuscité, il dit à Marie, il dit, « Je veux te dire quelque chose. Dieu égale votre Père. Votre Père, c'est votre Dieu. Vous l'appelez Père. » C'était un peu nouveau hein, pour les Juifs, parce que dans l'Ancien Testament, on ne l'appelait pas Père. Et donc c'est un peu nouveau pour les disciples, et il y a un petit rodage à faire. Mais pour les disciples de Jésus-Christ, il y a le rodage sur beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses à apprendre et des mots à changer. Mais c'est quand on fait référence à Dieu. Alors quand vous parlez avec les inconvertis, vous dites Dieu, mais quand vous parlez à Dieu, vous dites mon Père. Et quand on parle entre nous, on dit notre Père. Et lorsqu'on adresse nos prières, on les adresse au Père. En fait, même tellement il a insisté dessus, il a dit dans Matthieu 23, verset 9, il a dit « N'appelez personne votre Père, sinon Dieu ». Votre Père qui est dans le ciel. C'est le seul qui a droit d'être Père. Hein? Même pas le prêtre, ni quelqu'un d'autre. Bon, il y a le Père physique, ça c'est une chose. Le Père biologique, ça on l'appelle Père bien sûr. Mais pour ce qui est du domaine spirituel, il n'y en a qu'un seul qui est notre Père. Pour le disciple, c'est Dieu. Et donc, première chose. Vous savez, je pourrais m'arrêter là tout de suite et vous dire, mais ça c'est réconfortant. De savoir que, quelle que soit ma situation en tant que disciple de Jésus-Christ, eh bien, Dieu, c'est pas seulement Dieu, Dieu puissant, Dieu grand, Dieu omniprésent, Dieu qui sait tout, Dieu qui voit tout, Dieu, ça, tout ça, oui, mais tout ça, c'est des choses qui peuvent faire peur, et c'est des choses, mais c'est mon Père, hein? C'est une chose quand vous dites, monsieur le préfet, c'est autre chose de dire, mais le préfet, c'est mon Père, oh, ça change tout. Et donc, Dieu, c'est notre Père. C'est la première chose. Et donc, vous allez voir, et si vous relisez pendant la semaine, vous relisez ces versets, vous allez voir combien de fois il y a Dieu est appelé Père dans ces passages. Alors, dans cette situation, Jésus dit aux disciples, il dit que votre cœur ne se trouble point. Comment Jésus peut-il dire que votre cœur ne se trouble point, alors que lorsque vous regardez au chapitre 13 et au verset 21, chapitre 13, verset 21, il dit, ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Et c'est le même mot, même dans le grec, c'est le même mot. Jésus dit, que votre cœur ne se trouble point. Puis lui, il était troublé il n'y a pas longtemps, hein, il y a quelques minutes avant. Pourquoi est-ce qu'il dit que votre cœur ne se trouble point? Eh bien, premièrement, nous devons comprendre que le cœur des disciples, les disciples de Jésus-Christ, peuvent être troublés. Ça arrive. Et Jésus, dans son humanité, il pouvait être troublé. Et nous pouvons être troublés. Mais la question, c'est ne pas rester troublé. Ne pas rester dans la crainte et l'inconnu. Alors, en fait, dans ces chapitres 14, 15 et 16, et ensuite il va terminer par la prière au chapitre 17, en fait, il est en train de dire, il va dire aux disciples pourquoi ils ne doivent pas rester avec le cœur troublé. Hein, donc c'est ça que nous allons voir au fur et à mesure des différents dimanches. Mais là, en fait, chapitre 14, quand Jésus leur dit que votre cœur ne se trouble point, ils avaient les raisons pour avoir le cœur troublé. Mais il n'y a que les promesses du Seigneur qui vont rassurer. Mais dans le chapitre 13, après que Jésus a lavé les pieds des disciples, eh bien, vous regardez, je ne vais pas le lire là maintenant, mais vous regardez à partir du verset 18 jusqu'à 30, eh bien, Jésus est en train de dire aux disciples, vous savez, il y en a un parmi vous qui va me livrer. Et chacun se regarde, et puis... Même les disciples, il nous dit dans Matthieu, même chacun a commencé à dire, Seigneur, est-ce moi? Finalement, ils n'ont pas pu soupçonner quelqu'un et chacun a douté de lui-même. Et vous savez, quand vous êtes dans une situation et puis vous doutez de vous-même, vous dites, mais est-ce que je vais rester fidèle? Est-ce que c'est moi qui ne vais pas être fidèle? Ça perturbe, c'est sûr. Et il nous dit que dans ce chapitre, il nous dit que tous ont demandé, est-ce moi? Et même à la fin, même Judas a dit, verset 22, Matthieu 26, verset 22, Judas va dire, est-ce moi? Il va essayer de faire l'innocent comme les autres, alors que lui sait bien, c'est lui-même qui a été parlé avec les disciples, ils ont déjà fait le contrat, il a déjà l'engagement et tout. Et lui, il dit, est-ce moi? Il fait l'innocent, mais en même temps, il veut savoir si Jésus sait que c'est lui, ou si Jésus a dit ça comme ça. Et Jésus lui dit, oui, c'est toi. Hein? Et il fera un signe, il dit, il va pas dire c'est toi, il va dire, c'est celui, je vais prendre celui à qui je donne le pain, c'est lui. Bon, les disciples, les autres disciples ne vont pas comprendre. Donc eux, pendant toute cette soirée, ils sont en train de se dire, qui est-ce qui va trahir Jésus? Et donc, il y a de quoi troubler. Hein, c'est comme s'il y en a, si là, quelqu'un rentrait ici, il dit, il y a l'un de vous qui va tuer quelqu'un, va devenir un criminel. C'est qui? On se regarde, mais qui est capable de faire ça? Et ça va mettre le trouble, forcément. Et Jésus leur dit, que votre cœur ne se trouble point. Oui, mais bon, Jésus, tu comprends, c'est grave. Et puis, c'est pas seulement cela. Mais après, vous lisez au chapitre 13, verset 31, et Jésus dit au verset 33, il dit, mes petits enfants, je suis pour vous, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Là, tout d'un coup, après, une deuxième chose. Déjà, ils doutent. Okay, c'est qui va livrer? C'est lequel d'entre nous qui allons livrer le Seigneur? Et maintenant, Jésus ajoute, celui en qui ils ont placé leur confiance, celui pour qui ils ont tout quitté, hein, Pierre et Jean et Jacques et André, ils ont quitté les filets, Matthieu, il a quitté son bureau de péage, tous, ils ont tout quitté pour le suivre, et maintenant il dit, moi, je vais partir, et vous ne savez pas où je vais, et vous ne pouvez pas venir. Vous imaginez ce que ça pourrait faire? C'est, imaginez une situation, le papa qui rassemble toute la famille, les enfants, la maman, tout le monde, et puis qui dit, vous savez, je vais partir quelque part, et puis vous ne savez pas où je vais, je m'en vais. Vous savez ce que ça fait dans une famille? Mais là, c'est la même chose, Jésus est là avec ses disciples, et puis il leur dit, moi, lui, le plus important de tous, il dit, moi je vais partir, et vous ne pouvez pas venir où je vais. Et puis, vous ne savez pas où je vais. Ah bah oui, bah écoute, c'est normal qu'on soit un peu troublé. Hein, donc, mettez-vous à la place, imaginez que vous êtes l'un des disciples là, et il y a de quoi être troublé. Et ce n'est pas seulement ça, mais c'est qu'à la fin du chapitre 13, Jésus va dire à Pierre qui est le meneur, Pierre c'est celui qui parle pour les disciples, il est un peu il représente ses disciples. Et Jésus dit au verset 38, Jésus répondit, c'est vrai, tu donneras ta vie pour moi. Mais en vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié trois fois. À Pierre, celui qui, tous sont derrière lui, ils ont confiance en lui, c'est lui qui parle pour eux. Hein, ce que eux pensent, lui le dit fort. Et Jésus dit à Pierre, il dit, toi, tu vas me renier. Et avant que le coq chante demain matin, tu vas me renier. Alors, avec ces trois choses que Jésus vient de dire dans le chapitre 13, l'un de vous va me livrer, va me vendre. Moi, je pars et vous ne savez pas où je vais. Et Pierre, il va me renier. Ouais, imaginez les disciples là. Et c'est ça, hein, ils sont. Oui, ils ont les pieds propres, ça c'est sûr, mais maintenant, ils ont oublié ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si vous avez l'impression que vous avez comme Job hein, qui a reçu une mauvaise nouvelle, et une mauvaise nouvelle, et encore une mauvaise nouvelle, et une autre mauvaise nouvelle. Et peut-être que vous l'avez vécu vous-même, des fois, une avalanche de mauvaises nouvelles. Hein, vous apprenez quelque chose dans le quartier, puis après vous allumez la radio, et encore quelque chose, et puis après, ouais, encore quelque chose. Et vous dites, vous avez l'impression que le monde s'écroule. Et il y a de quoi être troublé. Eh bien, Jésus va nous dire dans ces chapitres, il dit comment retrouver le calme. Comment retrouver le calme? Même si ces choses sont vraies, comment retrouver la paix dans le cœur? La situation est très sombre pour les disciples. Ils viennent d'entendre que des mauvaises nouvelles. Ils ont peur que Jésus continue à parler parce qu'il va dire encore quelque chose. Et Jésus, en fait, dit que votre cœur ne se trouble point. Ah oui, mon Seigneur, c'est gentil, hein, mais vous savez, vous avez entendu une mauvaise nouvelle, le compte en banque, il est vide, le loyer doit arriver, le fiston, il est malade, et puis toutes ces choses en même temps. Et quelqu'un vous dit, t'en fais pas, tout ça. C'est facile à dire. Mais Si tu étais à ma place, j'aimerais bien te voir calme. Mais et Jésus ajoute, croyez en Dieu et croyez en moi. Et puis peut-être que ça vous est arrivé aussi, quand vous aviez une situation, la maladie vous menace, les problèmes, vous avez entendu ceci, entendu cela, tout est là en même temps. Et puis quelqu'un dit, fais confiance à Dieu, t'en fais pas. Bon, oui, merci, oui, oui, bien sûr. Et puis dans votre cœur, vous lui dites, écoute, c'est facile pour toi de le dire, toi tu vas bien. Hein, mais j'aimerais te voir à ma place. Et vous savez, des fois, on a ce sentiment, des fois, quand on lit la Bible aussi. Hein, et quand on lit certaines paroles de la parole, eh bien, parfois, on a ces sentiments aussi. Oui, bon, ce verset, oui, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, oui, d'accord. Mais quand tout va bien, dimanche matin, et tout va bien, d'accord, oui, c'est vrai. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, on aime bien le dire. Mais quand ça va mal, c'est pas facile de le dire. Et c'est trop facile pour les autres de nous le dire. Hein. Mais Jésus, en fait, il leur dit, non, mais la vraie réponse, c'est croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en Dieu, pour croire en Dieu et croire en Jésus, il faut d'abord déjà entendre une information, une promesse, une parole, hein, parce qu'on ne peut pas croire comme ça, il faut croire quelque chose. Donc, il faut avoir entendu une parole, et deuxièmement, il faut avoir confiance en celui qui l'a dit. Sinon, il n'y a pas la foi. Donc, quand il nous dit « croyez en Dieu et croyez en moi », il dit « écoutez ma parole et ayez confiance en moi hein ». C'est important pour nous de vous rappeler dans le psaume 46, verset 10, il dit « arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu ». C'est-à-dire il y a des moments dans notre vie, et surtout quand ça va mal, il dit « arrête !» Au lieu de paniquer, de courir, hein, vous savez comment ils le font dans les dessins animés, hein, ils montrent à quelqu'un qui est attaqué, ils sont sur place, ils ne savent pas quoi faire, c'est pas où courir, mais ils sautent et tout ça parce qu'il faut faire quelque chose. Et dedans de nous, c'est un peu comme ça, on ressent. Il dit « arrêtez, arrêtez !» Et sachez que je suis Dieu. Arrêtez, pensez, mais Dieu, qu'est-ce qu'il est ? Il dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Et puis, pour faire confiance, Jésus dit, croyez en moi. Eh bien, pour croire en lui, il faut le connaître. C'est difficile d'avoir confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas, ou qu'on connaît mal. Ou dit, oui, je le connais, je l'ai rencontré au marché. Tous les deux, on a acheté des pastèques ensemble. Mais bon, ça ne suffit pas pour dire que je fais confiance à la personne ou que je recommande la personne. C'est important de le connaître. Même dans Philippiens chapitre 3 et verset 10, Paul disait, de le connaître. Connaître Dieu dans sa souffrance, dans sa puissance, dans sa résurrection. Plus je le connais, plus j'ai vécu des choses avec lui, plus je pourrais lui faire confiance. Hein? Et c'est comme ça que c'est pas juste une parole, mais c'est avoir vécu des choses ensemble, fait du chemin ensemble. Lorsqu'on a fait de la route ensemble, on peut presque prévoir l'autre. C'est important de... Donc il dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Alors Jésus dit à ses disciples, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, c'est-à-dire pensez à des paroles de Dieu et faites confiance. Et donc il va commencer, à partir du verset 2, justement il va commencer à parler des éléments, des paroles, qui peuvent nous rassurer. Et donc, nous avons vu les premièrement, d'abord les événements qui ont troublé les disciples, et maintenant nous allons voir, et en fait dans les dimanches qui suivent, les vérités qui rassurent le disciple. Une chose que je veux faire remarquer, c'est que ici, au début du chapitre 14, Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Ils sont troublés, ils sont perturbés, ils sont en train de se préoccuper. Mais peut-être quelques heures plus tard, quand les disciples auront été dans le jardin de Gethsémané, alors que c'est là le moment le plus grave, c'est là où les choses vont se passer, eux, ils dorment comme des bébés. C'est pour vous montrer combien Jésus les a rassurés. Avec tout ce qu'il leur a dit, ben ils sont arrivés là-bas dans le jardin, et puis ils ont trouvé une place tranquille sous un olivier, et puis ils dormaient alors que Jésus était encore, lui, était dans les angoisses et dans la tristesse. Parce que les paroles de Jésus dans la chambre haute, ce sont des paroles qui rassurent. Et c'est ça que nous voulons voir. La première information qu'il leur donne, voyez au verset 2, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Il dit la première chose, pour vous calmer, il y a plusieurs demeures, il a dit il y a de la place. Il y a de la place dans la maison de mon père. Et vous voyez déjà le mot père. Hein, il parle de la maison de mon père. Il dit la maison de mon père, la demeure de mon père. Cette demeure-là, c'est celle que les anciens ont cherchée. Vous rappelez, dans Hébreux chapitre 11, il nous dit qu'Abraham, finalement, il recherchait cette cité dont les fondations étaient éternelles. Il n'a pas trouvé sur terre ce qu'il voulait, mais il avait confiance dans cette cité éternelle. En fait, c'est ce que les hommes de foi de l'ancien temps ont recherché. Jésus dit, vous connaissez le psaume 23, hein, vous savez comment ça termine. Hein, ça commence, l'Éternel est mon berger, je manquerai de bien, et ça termine comment? Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et lui, il pense, David, qu'est-ce qui te manque? Il dit, non, mais tout ça, ça va. Ce que je veux, c'est la demeure éternelle. Et Jésus parle de cela aussi à ses disciples. Et Jésus parle de cette demeure éternelle. Vous savez, l'apôtre Paul fait référence souvent au ciel. Il dit, nous sommes citoyens des cieux. Il dit que nous sommes assis dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Colossiens chapitre 1, hein, je vais lire juste ce verset-là. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, verset 5, c'est pas le début du verset. Le verset commence au 3, il nous dit « Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Hein? » À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. L'apôtre Paul dit « Oui, voyez, toutes sortes de choses qui arrivent ici sur terre. » Mais ce qui est, c'est dans les cieux, vous avez une demeure. Et de Timothée 4, 18 aussi, il fait référence à ce lieu dans la gloire. En fait, si vous lisez dans l'évangile de Matthieu, vous allez trouver 7 fois que Jésus emploie l'expression « Mon Père qui est dans les cieux ».« Mon Père qui est dans les cieux ». Ah, tout à l'heure, on disait combien il est important pour nous, les disciples, de penser à Dieu en tant que Père. Eh bien, il nous dit, mon Père, hein, donc votre Père, il est dans les cieux. C'est là où il est. Et c'est là où vous serez. Vous savez, Jésus croyait vraiment, sérieusement au ciel. Dans Jean chapitre 6, eh bien, Jésus parle énormément du ciel. Il dit « Je suis descendu du ciel » plusieurs fois. Il dit « Je suis le pain venu du ciel » plusieurs fois. C'est Jésus, il croit vraiment. Jésus, même, vous souvenez quand sa discussion avec Nicodème, il dit dans Jean chapitre 3, donc, et verset, ça doit être verset, qu'est-ce que c'est, 13 ou 14, il dit, qui est-ce qui peut parler de là-haut, sinon celui qui est descendu, le Fils de l'homme. Il dit, moi, je suis bien placé pour vous parler du ciel. Il dit, je suis venu de là. Ça existe. C'est pas seulement, comme certains les gens du monde nous disent, oui, mais bon, ça c'est un peu dans l'imagination que vous croyez au ciel. Qu'est-ce qu'il y a ? Les astronomes, ils sont partis dans l'espace. Et même, je me rappelle le jour où Gagarine était monté dans là-haut, il a dit, j'ai regardé, j'ai pas vu Dieu quelque part. Puisqu'il n'a rien compris. Deuxièmement, il n'aurait pas pu le voir même s'il était là, parce que Dieu est esprit. Donc lui, il ne sait pas de quoi il parlait, et puis il essaye de faire une parole profonde. Et ils disent, oh, on est allé sur les planètes, et on n'a pas encore trouvé Dieu. Mais ça, c'est seulement le début, ça. C'est seulement le couloir. Dieu est au-delà de tout cela. Et Jésus a dit, je suis venu de là-bas. Je sais que ça existe. Je sais ce que c'est. Et j'y retourne. Et je m'en vais vers mon Dieu et votre Dieu, vers votre Père et mon Père. Il dit, j'y vais. Pour Jésus-Christ, c'était une réalité. Et vous savez, Jésus, ce n'est pas un genre de personne qui est comme un commercial, que peu importe ce qu'il pense dans son cœur, il vous parle comme si c'est du vrai. Hein, c'est la meilleure marchandise, il n'y a pas d'autre possibilité, c'est le meilleur produit, tout ça, il parle. Alors qu'au fond de son cœur, il dit, mais moi-même, je n'achèterai pas. Jésus, il croit. Jésus, homme, est tellement, ce à quoi il pense, ça ressort dans ses émotions. Quand il a parlé de Judas qui allait le trahir, il dit, il avait cœur troublé, ça se voyait. Quand il était devant la tombe de Lazare, il a pleuré. Quand il était dans le jardin de Gethsémané, et il savait qu'il allait mourir le lendemain, eh bien, il dit que son âme était angoissée. Il était dans la tristesse. C'est-à-dire, ce que Jésus pense, ça se voit dans ses émotions. Et aussi, quand il était heureux, il a dit, « Je te loue, Père !» de ce que tu as révélé ces choses aux enfants. Et quand c'était joyeux, il se réjouissait. On pouvait lire sur son visage ses sentiments. Parce que Jésus était homme et entièrement homme. Il était 100% Dieu et en même temps 100% homme. Et là, Jésus parle à ses disciples aussi sincèrement que possible et il parle du ciel comme s'il y croyait. Parce qu'il y croit vraiment. Il dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, il y a de la place. Et puis il ajoute, pour vous rassurer, c'est pas seulement que je vous parle de la maison de mon Père, et c'est loin, mais bon, c'est comme si je vous parlais d'un endroit en Australie, et puis il dit, ouais, mais bon, tu peux m'en parler, mais bon, comment je vais y arriver, moi? Il n'y a aucune chance qu'un jour j'y aille. Non, Jésus dit, non, dans la maison de mon Père, il y a largement de la place. Et en plus, il dit, je suis le chemin. C'est-à-dire, je suis le moyen par lequel on peut y arriver. Donc, quand vous avez une adresse et quand vous avez le chemin pour y arriver, eh bien, c'est comme si vous y étiez presque. Et vous l'avez vu peut-être dans votre autre expérience, quand on vous donne une adresse que vous ne connaissez pas, c'est un endroit nouveau, mais le GPS, il le reconnaît, et puis lui, tout d'un coup, il réfléchit quelques minutes, et puis après, tout d'un coup, il a tracé un chemin. Et bien après, vous ne savez pas ce que vous allez voir. Vous pouvez voir des stations d'essence, vous pouvez passer des accidents, vous pouvez passer par des chantiers, vous pouvez faire tourner à droite, tourner à gauche, vous faites toutes sortes de choses, rien ne vous étonne, parce que vous savez que vous êtes sur la bonne route. Et dans notre vie personnelle avec Christ, je sais où je vais, je sais que le chemin, je l'ai. Et puis après, dans la vie, peu importe ce que je rencontre. Je rencontre des accidents, je rencontre des difficultés, la route, elle est mauvaise. Peu importe ce que je rencontre, c'est un chemin nouveau. Mais je sais où je vais. Et je sais qui est le chemin. Et Jésus est ce chemin. Et Jésus dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit je suis un chemin. Le GPS vous donne un chemin. Ce n'est pas toujours le meilleur. Hein. Mais Jésus n'a pas dit que je suis un GPS. Il a dit je suis le chemin. Le chemin. La vérité et la vie. Nous allons peut-être la prochaine fois justement étudier ces trois mots-là. Donc je ne vais pas arrêter, mais Jésus est le chemin. Quand il dit je suis le chemin, c'est-à-dire suivez-moi. Hein, quand on trouve le chemin, quand je fais des randonnées, et puis après je regarde mon plan, tout ça, puis je vois, après je trouve la piste et je trouve les balises qui me font, hein, c'est les bonnes couleurs. Je me dis, ça y est, tu as trouvé le chemin. Bon, maintenant, après, qu'est-ce que je dois faire? Je dois le suivre. Hein? C'est pas seulement dire, ah, j'ai trouvé le chemin. Oui. Non, après, il faut le suivre. Sinon, c'est pas la peine. Et si j'ai rencontré Jésus, le chemin, après, il faut le suivre. Ça monte, ça tourne et tout ça. Mais bon, je vois les balises, je vois tous les temps en temps, je vois les balises. Et dans notre vie chrétienne, je marche. Il y a des moments où Dieu parle, il y a des moments où Dieu ne parle pas. Mais de temps en temps, il parle, ça me suffit pour continuer. Abraham, dans sa vie, il avait combien d'hôtels? Il avait 3 ou 4 hôtels dans sa vie, c'est tout. Pour 100 ans de vie. Mais ça lui a suffi. C'était les balises pour lui montrer qu'il était sur bon chemin. Quand il s'écartait, Dieu lui ramenait de l'Égypte, il revenait au dernier hôtel, à la dernière balise, et après il continuait. Et c'est ça qu'on se fait, même quand on fait une randonnée. Je ne vois plus les points rouges là. Ben, je reviens jusqu'au dernier et je commence à chercher à nouveau. Et c'est ça, notre vie chrétienne, elle est comme ça. Constamment, on revient et on s'assure, mais on reste sur le chemin et on suit Dieu. Et on le suit jusqu'au bout. Vous savez, la première chose qui rassure les disciples, Jésus a dit, il y en a un qui va me livrer. Il dit, Pierre va me renier, mais il mourra pour moi. Mais il va me renier. Moi, je m'en vais. Mais vous savez, dans la maison de mon Père, il y a une place pour vous. Eh bien, ça, c'est la première chose qui rassure le disciple. Et c'est ce qui nous rassure. Et Jésus commence par cela, pour vous rassurer. Il dit, je vous ai promis, je vous réserve une place. Il a dit, et je m'en vais, je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai. Hein, des fois, les gens, ils ont mon adresse, ils viennent à la maison, mais après, ils n'arrivent pas à trouver quelque part, ils se perdent, ils disent, j'arrive pas à trouver, je lui dis, où tu es? Bon, le Seigneur, lui, il sait où on est. Moi, je ne sais pas. Je dis, où? Je me rappelle une fois, il y a quelqu'un qui m'a appelé, il dit, je suis perdu. Je lui ai dit, tu es où? Il a dit, je ne sais pas, je suis perdu. Et c'était à Paris, et j'ai dit, bon, on va attrape quelqu'un sur le trottoir là et donne-lui le téléphone. C'était à l'époque où il y avait les cabines. Je lui donne le téléphone et lui il va me dire où tu es. Et la personne m'a dit où il était. Après j'ai dit bon maintenant je peux t'aider. Bon c'est dans notre vie chrétienne. Hein, mais Jésus dit je viendrai. Alors quand les gens se perdent à côté de chez moi là-bas, ben, je dis attends bouge pas, je viens te chercher. Je viens avec la voiture puis après tu dis tu me suis. Jésus dit écoute, je m'en vais vous préparer une place. Et puis après, je reviendrai vous prendre. C'est sûr qu'on va y arriver. Il y a de quoi nous rassurer, peu importe ce qui arrive dans notre monde. Peu importe comment ça tourne. Hein? Si tout tourne au vinaigre. Mais il y a une chose que je sais, c'est que Dieu garde sa parole. Et qu'il est fidèle. Il dit, que votre cœur ne se trouble point. Il y a de la place dans la maison de mon Père. Et je vous prépare une place. Et je vais vous emmener. Déjà la fin, elle est assurée. La route, bon, je ne sais pas, mais à partir du moment que la fin est assurée, c'est bon. La question ce matin, c'est est-ce que vous avez croisé ce chemin ? Hein, comme moi dans les randonnées, hein, est-ce que j'ai croisé le chemin ? Tant que je n'ai pas croisé, je ne suis pas bon. Mais si j'ai croisé le chemin, et le chemin c'est Jésus-Christ, si je l'ai rencontré, et le lieu de le rencontrer c'est à la croix. Pas le lieu géographique de la croix, mais le Dieu, Jésus qui est mort sur la croix pour mes péchés. Dire Jésus-Christ, j'ai entendu que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Et celui qui me l'a dit, c'est comme s'il y croyait vraiment. Eh bien moi je veux te faire confiance aussi. Je te demande de pardonner mes péchés grâce à ce que tu as fait sur la croix et je veux te suivre. Et à partir de la croix, eh bien, le chemin commence. Et c'est là que commence le chemin qui nous mène jusqu'à Dieu. Et si nous sommes sur le chemin, restons sur le chemin. Hein? Ne soyons pas comme les enfants d'Israël qui, tous les temps en temps, avaient envie de retourner en Égypte. Si constamment je retourne à ce que j'ai été dans le monde, il n'y a que les chiens qui retournent à ce qu'ils ont vomi. Mais des disciples de Jésus-Christ, ils continuent sur le chemin. Hein? Donc soyons fidèles. Et dites que votre cœur ne se trouble point. Croyez-moi. Croyez en Dieu et croyez-moi. Il y a de la place dans la maison de mon Père et je vous réserve une place. Gloire à Dieu. Prions. Père Céleste, encore une fois, nous sommes reconnaissants à toi pour ta parole. Nous sommes reconnaissants à toi parce que tu as parlé à notre cœur et tu nous rappelles tes pensées. Et nous te remercions parce que ce que tu nous enseignes, eh bien, c'est des choses auxquelles nous pouvons nous accrocher. Ce n'est pas des paroles dans le vide, ce n'est pas des paroles qui sont là juste pour parce qu'on ne sait pas quoi dire, mais ce sont des vraies paroles. Et toi, tu y croyais ? Et nous pouvons croire, nous pouvons nous appuyer dessus. Et ceux qui nous ont précédés l'ont cru, et nous voulons le croire. Seigneur, aide-nous à être des disciples fidèles. Oui, parfois nos cœurs sont troublés, mais toi, tu nous rassures par ta fidélité. Père, tu connais chaque cœur ici, tu sais qui pourrait être là, qui a le cœur troublé. Seigneur, qu'il puisse trouver en toi le réconfort. Et pour celui qui aurait peut-être quitté le chemin et donc le trouble est revenu, qu'il puisse revenir au chemin, revenir à toi, confesser son péché, te demander pardon et recommencer à te suivre. Comme Abraham qui est parti en Égypte, ce n'était pas ta volonté, mais il est revenu et il a continué à vivre. Et pour toi, c'était un homme de foi qui a vécu par la foi. Père, c'est au nom de Jésus-Christ et à la gloire de ton nom que nous prions. Amen. Thank you.